Les lectures d'aujourd'hui, où nous ouvrons le livre de Jérémie, en première lecture, et puis l'évangile, peuvent être reçues sur cette question, je dirais deux questions complémentaires, sur qui tombe la parole de Dieu, sur quoi tombe la parole de Dieu. Donc nous découvrons que avec Jérémie, cette parole tombe sur Jérémie et qui manifeste sa jeunesse par rapport à ce que Dieu semble lui demander, et Dieu le touche. Et Dieu le touche pour lui dire voilà. Maintenant, va, je t'envoie. Et juste auparavant, il est évoqué dans Jérémie, avant de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et ceci, joint au fait du fait que la main de Dieu a touché les lèvres de Jérémie, nous renvoie, je pense, enfin c'est au moins une lecture, à Adam, avec... cette image du plafond de la chapelle Sixtine où on voit Dieu qui rapproche son doigt d'Adam, qui va le toucher, finalement lui donner la vie. Et donc cette parole qui est vie, met en vie, donne la vie, et le premier mouvement vient de Dieu qui en fait est indissociable. Sa parole et la vie, c'est la même chose. La vie, c'est la parole, c'est la vie. Et donc ça, c'est le premier point. Donc il est conçu, touché et envoyé, Jérémie. Voilà, ça c'est l'histoire de Jérémie, bien concrète. Et puis, dans l'évangile, on a quelque chose d'un peu différent, mais la question se pose tout de même sur quoi tombe la parole de Dieu, sur quelle terre tombe la parole de Dieu. Donc on voit d'abord que le semeur, il y va, il n'est pas chiche, hein. Et il y va largement, ce qui est étonnant, parce que quand on sème, je ne suis pas sûr qu'on sème beaucoup sur le goudron, nous. Lui, il y va largement, hein. Il y a la mesure, il n'y a pas de problème de pénurie, il n'y a pas de « oui, il faut faire des économies », on y va largement, et ça tombe là où ça tombe. On ne se dit pas « bon, bah là, il ne faut pas planter parce qu'il y a ceci », non. Dieu sème partout, la parole, elle n'a pas de... Elle est semée dans le champ, mais largement, très largement. Et du coup, on peut se dire, bah, pourquoi est-ce qu'il y a plus ou moins de fécondité? C'est, je pense, la deuxième question. La parole touche la terre, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de fécondité? Pourquoi la parole est-elle féconde ici et moins féconde là? Et là, c'est un peu la limite de la parabole, puisque donc on a... Parabole, c'est une image, hein, parabole, ça veut dire comparaison. En latin, on a le mot comparaison. Donc, ça veut dire c'est presque comme, mais c'est pas tout à fait comme. Et là, effectivement, la question de la terre, la terre, elle est bonne ou elle est pas bonne? Elle est désherbée, elle est pas désherbée. Elle est apte à recevoir une semence, elle n'est pas apte. Et là, nous voyons notre responsabilité, nos choix, et on peut ne pas s'en rendre compte. On peut être dans un péché sans s'en rendre compte et ne pas pouvoir permettre à la parole de porter du fruit. Notamment, je prends cet exemple-là, il y en a beaucoup d'autres, la rancune, l'amertume, c'est un désherbant extraordinaire. Enfin, pas désherbant, mais un désensemencement extraordinaire. L'amertume, ça tue la parole quand elle arrive dans la terre. Ça la bouffe immédiatement. Donc, si la parole ne porte pas de fruit en nous, peut-être que nous avons une confession à faire, sacramentelle, une confession réelle, ou bien même un acte qui n'est pas à proprement parler sacramentel, mais qui est de remettre à ceux qui nous doivent ce qu'ils nous doivent. Alors, ça peut être extrêmement profond comme démarche. J'en parlerai peut-être une autre fois. Voilà, on peut vivre dans le péché des autres. Voilà, on m'a fait ça quand j'avais 15 ans et depuis... Mais arrête de vivre dans son péché. Tu es beaucoup plus grand que ce qu'on t'a fait. Alors vis. C'est un peu aussi le message de Jérémie, d'une certaine manière, qui dit, mais tu sais, moi je suis tout petit, voilà, il n'y a pas question d'abus, de maltraitance, de quoi que ce soit, mais voilà, je suis un petit bonhomme. Non, non, attends, je t'ai touché, alors tu y vas. Parce que la vie que j'ai mise en toi, elle est autrement plus grande que ta petitesse, les blessures que tu as pu avoir, quelles qu'elles soient. Il y a des blessures terribles, hein, c'est bien entendu. Donc voilà, je crois que c'est vraiment le message de ce jour, de ce semeur qui sème. Mais est-ce que vraiment nous voulons bien accueillir cette parole? Et puis, le dernier obstacle, c'est aussi nos peurs. Ah ben oui, mais si je réponds à la parole de Dieu, il va se passer quoi? Voilà, donc la peur qui appelle la foi. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, c'est moi, dit Jésus. Effectivement, quand Jésus apparaît et marche sur l'eau, les apôtres, ils ont la trouille, ils pensent que c'est un fantôme, mais Jésus leur dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Et il faut nous laisser rejoindre et toucher, et avoir le courage d'avoir peur, curieusement, c'est-à-dire d'aller au-delà de sa peur. C'était un livre du père Molinier. Bon, dans ce livre, en tout cas, il y a des choses intéressantes. Le courage d'avoir peur, c'est-à-dire de... Oui, j'ai la trouille, et c'est normal que j'ai la trouille, mais ce n'est pas une raison pour ne pas me dire il y a quelque chose derrière cette peur qui va être merveilleux après cet obstacle-là, si je le passe. Au moins j'essaie de laisser la parole porter du fruit en moi et voir ce que me dit mon cœur, ce que l'Esprit-Saint me dit intérieurement. Eh bien, puisse-t-il en être ainsi pour chacun de nous, non seulement aujourd'hui, mais à l'avenir. Amen.